La quotidienne, avec Michel Cloutier et Izzy Lévesque. Un regard sur l'actualité agricole.
Madame, messieurs, bienvenue à La quotidienne. Mon nom est Michel Cloutier, je suis en compagnie d'Izzy Lévesque, comme à l'habitude. Bonjour Izzy, ça va bien?
Ben oui, ça va super bien.
Aujourd'hui, pour les chroniques, on va rejoindre Yannick Patelli, qui est avec nous en chaque début de semaine,
éditeur
de la vie agricole. Bonjour Yannick, comment ça va?
Bonjour Michel, bonjour Izzy. Nous avons aujourd'hui, effectivement, un invité qu'on a déjà reçu dans le passé, depuis quelques mois, Thibaut Rennes de Vigilance OGM. Connaissez-vous Vigilance OGM comme organisation?
Non,
vous connaissez
du
pas
tout.
Alors, je pense que Thibaut va intervenir tout à l'heure, va pouvoir nous présenter déjà son association, son OBNL, en fait, qui...
À la base, avec le nom, on a une petite idée là, de ce que c'est, mais c'est effectivement la première fois que j'en entends
oui.
parler.
Oui, tout à fait.
Alors, écoutez, nous, on l'a eu à quelques reprises dans la quotidienne, et là, l'actualité le ramène ici, puisqu'il y a eu, il y a quelques semaines maintenant, en fait, un dossier de Thomas Gerbert, Radio-Canada, qui s'est appelé Team Tiger sur les pesticides. On y viendra tout à l'heure, peut-être. Mais d'abord, Thibault, je suis donc en compagnie d'Izzy et de Michel Cloutier. On parle à des auditeurs, généralistes, puisque ce sont des radios FM partenaires dans les régions qui reprennent l'émission maintenant. Peut-être nous expliquer, c'est quoi Vigilance OGM? C'est quoi le rôle que vous jouez dans la société?
Donc, premièrement, merci pour l'invitation. Donc, Vigilance OGM est un organisme qui existe depuis 15 ans bientôt et qui est né de la volonté de différents groupes environnementaux, de citoyens, de groupes d'agriculteurs comme CAP, l'Union Paysanne, mais aussi des groupes de consommateurs, l'Union des consommateurs, de faire un suivi sur qu'est-ce qu'on offre, c'est quoi les OGM, qu'est-ce qu'on offre, à quoi ça sert, pourquoi on en fabrique et quels sont les impacts sur notre agriculture. Et donc, nous, on fait principalement depuis bientôt 15 ans donc de la sensibilisation sur les OGM et les pesticides associés parce que après 25 ans, les OGM sont uniquement faits pour tolérer un ou plusieurs herbicides, ce qui, à long terme, pose des problématiques de consommation de pesticides. Donc, c'est un peu ça en résumé, la Vigilance OGM.
Vigilance OGM. Alors, ça c'est le point de vue. Parce qu'on va parler, il y a comme un débat de société qui se polarise beaucoup. Il y a vous, de votre côté, Vigilance OGM, finalement sur la lancée de l'Union Paysanne, qui est anti-OGM, anti-pesticide. Il y a de l'autre côté une industrie qui, elle, prétend que le pesticide, que certains intrants sont nécessaires pour... le développement des cultures et pour nourrir la planète. On va dire que on va résumer ça un peu comme ça. Et d'ailleurs, parce que je rappelle au passage que si on va sur le site officiel en fait du gouvernement concernant les OGM, eux ils disent un peu à l'inverse de Vigilance OGM que l'adoption d'OGM a permis de réduire l'utilisation des pesticides chimiques de 37% et d'augmenter le rendement des cultures de 22%. C'est pour ça qu'il y a un vrai débat, parce qu'en fait, il y a les gens qui sont vraiment anti-OGM, il y a les gens qui
et
sont vraiment...
Et ça, c'est le site fédéral ou provincial?
Provincial.
Ah, ok. Ouais. C'est étrange parce qu'on a appris cette année que, d'après les chiffres du ministère de l'Environnement, on avait un record d'utilisation des pesticides en 2021, les derniers chiffres. C'est un peu étrange qu'ils disent ça, mais bref, allons-y.
Allons-y. Mais en fait, l'idée après, c'est de comprendre la raison pour laquelle vous revenez en fait aujourd'hui à l'émission, puis je comprends, c'est qu'il y a eu Thomas Gerbert, qui est un journaliste d'investigation, qui fait beaucoup d'investigations dans beaucoup de domaines. En fait, il s'est intéressé à l'agriculture, et lui, bon, il a comme dévoilé qu'il y aurait comme des ententes entre le lobbying des pesticides et les gouvernements. Alors, vous avez sorti un communiqué, je pense, en réaction à ça, où vous vous offusquez, en fait, que jusqu'à un certain point, que le gouvernement écoute les compagnies, c'est ça?
Effectivement. Donc, peut-être pour rappeler aux auditeurs, donc la Tiger Team, le scandale de M. Thomas Gerbert, ça vient d'un dossier qu'on suit depuis à peu près 3 ans, qui s'appelle c'est un peu le dossier de l'édition du génome. Donc, comment on vient faire ce qu'on appelle des nouveaux OGM. Donc, on vient modifier des plantes maintenant sans forcément insérer un gène étranger. Donc, via des techniques qui s'appellent l'édition du génome. Nous, on a suivi, donc, en 2000.
C'est ce qu'on appelle la technologie du CRISPR, c'est ça?
CRISPR fait partie de l'édition du génome, mais l'édition du génome a plus de techniques que CRISPR. CRISPR fait partie de la boîte à outils de l'édition du génome. Et donc, en 2021, Santé Canada et l'Agence d'inspection des aliments ont lancé des consultations publiques pour demander, voici, on aimerait maintenant évaluer, ou en fait, pour de notre point de vue, ne plus évaluer les nouveaux OGM parce que on considère que c'est sécuritaire et donc, au lieu de passer par un bureau ministériel pour une évaluation sur leur sécurité, leur impact, et aussi après avoir une liste obligatoire de tout ce qui est mis sur le marché par les compagnies, ben là, avec ce qui est certains nouveaux OGM, mais il n'y aurait plus besoin d'évaluation. Donc, l'industrie pourrait directement les mettre sur le marché et pourrait nous dire ou pas s'ils les ont mis sur le marché. Et donc là, suite à ces consultations, il y a eu une grosse levée de boucliers, autant de la part de groupes comme Vigilance OGM, mais aussi l'UPA, il y a les transformateurs du Québec, il y a bien sûr Québec Bio, toute la filière, je dirais, bio à travers le Canada, a dit, ben oui, mais si on peut plus savoir qu'est-ce que les agriculteurs plantent et qu'est-ce qu'on a dans les champs, ben là, ça vient mettre en danger particulièrement la norme bio, mais aussi l'autonomie des agriculteurs en général. Mm-hmm. Le gouvernement, il a dit, vous inquiétez pas, nous, on fait confiance à l'industrie. Et ce qu'on vient d'apprendre, c'est que, à travers les documents, donc la Tiger Team, c'est que 2 ans avant les consultations publiques, le gouvernement, donc c'est-à-dire l'Agence d'inspection des aliments, Santé Canada et CropLife, qui regroupe les principaux producteurs d'OGM et de pesticides, se réunissaient pendant 2 ans pour, en fait, créer, d'après leur définition, dans ces demandes d'accès à l'information, pour définir qu'est-ce qu'on va proposer aux consultations publiques. Et ce qui est dérangeant en démocratie, c'est que on s'aperçoit que le gouvernement s'associe uniquement avec un point de vue, c'est-à-dire les producteurs qui ont un intérêt à vendre plus d'OGM et de pesticides, pour créer nos orientations politiques. Et après, ils nous font croire que on fait des consultations publiques pour avoir votre avis, mais tout est déjà cané, là. Oui. Tout est déjà cané, parce que c'est...
Je comprends le point de vue de Vigilance OGM, qui est un mouvement, en fait, anti-OGM. Donc, est-ce que la lecture qui doit être faite est obligatoirement que le gouvernement s'assoie avec des compagnies privées, qu'elles soient de pesticides ou d'autres, parce que dans d'autres domaines aussi, elles s'assoient avec des compagnies privées. Est-ce que c'est toujours pour aller dans le sens de la compagnie privée ou c'est pour... Parce qu'en fait, moi j'entends aussi des fois, même dans Nutrition Animale, on collabore souvent avec Bélil, Bélil Nutrition Animale, qui a commenté plusieurs de nos chroniques. Et souvent, l'écho que j'ai de certaines compagnies privées, c'est qu'ils ont l'expertise. Il faut comprendre que souvent dans les gouvernements, d'ailleurs on regarde au MAPAC, souvent Michel Saint-Pierre nous a dit au MAPAC, l'expertise n'est plus là. Il y a les bureaux régionaux du MAPAC sont fermés, les agronomes sont plus là. Les agronomes, ils sont où? Ils sont dans les compagnies. Donc quelque part, quand le gouvernement s'assoit avec le privé, je comprends les inquiétudes que Vigilance OGM peut avoir. Je comprends tout de suite qu'on peut dire, c'est pour organiser, c'est pour écrire les règlements. Mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est parce que finalement ils vont chercher l'expertise privée?
Vous avez raison de soulever un autre problème, c'est que comme il y a un désinvestissement dans le public en général, que ça soit dans, bien sûr, l'agriculture, on l'a su avec le scandale de Louis Robert, mais aussi en éducation, il y a le privé qui prend la place. Ça, c'est malheureusement un autre problème parce que, vous savez, quand on lit attentivement les documents de Tiger Team, on s'aperçoit que Santé Canada, dans les documents, nous dit que compte tenu du fait que c'est des nouvelles technologies, on n'a pas d'historique de salubrité et d'histoire derrière ça. Donc, Santé Canada proposait d'évaluer, de continuer à évaluer, ou en tout cas de conserver une évaluation obligatoire de tous les OGM issus de l'édition du génome. Et dans les documents, on s'aperçoit que l'agence d'inspection et CropLife viennent à l'encontre de la décision de Santé Canada. Ils disent non. Et d'un seul coup, on n'a pas toute l'historique point par point, mais d'un seul coup, Santé Canada se range de l'avis de CropLife et de l'agence d'inspection. Et je suis d'accord qu'ils ont de l'expertise, ces gens-là. Mais en démocratie, on veut pas que les lois et les nouvelles orientations réglementaires soient uniquement dictées, et dans ce cas-là, c'est le cas, malheureusement, uniquement dictées par des intérêts privés. Parce que ça soit dans l'industrie des pesticides ou autres, ces gens-là, leur but, c'est de faire plaisir à leurs actionnaires et d'augmenter les rendements. Ils n'ont pas comme mission de protéger la santé des citoyens doit l'avoir Santé Canada.
Ils n'ont certainement pas la même mission que Santé Canada. Par contre, c'est vous qui le dites, ils ont la mission de remplir les coffres des actionnaires, certainement, mais ils ont aussi la mission de produire. En fait, c'est là en fait, où le discours est compliqué, parce qu'en fait, on peut leur prêter de mauvaises intentions, comme on peut leur prêter aussi des bonnes intentions de vouloir aider. On parle souvent aussi avec le CAPI dans cette quotidienne, avec l'Institut canadien des politiques agroalimentaires, Je ne pense pas que ça soit des fervents défenseurs du tout pesticide, mais ils nous expliquent quand même souvent que ça prend des intrants. Ça prend, on ne peut pas vivre dans des champs où il n'y a pas du tout d'intrants, où il n'y a pas du tout de pesticides ou de fongicides, sinon on n'aura pas
le rendement
nécessaire pour nourrir la population. Donc c'est pour ça en fait que je comprends les intérêts des gens sur GM qui sont très marqués. D'un autre côté, on peut polariser les choses, dire les gens sur GM ils sont contre tout,
l'interdiction de tous les pesticides demain matin là. Nous ce qu'on veut c'est que on ait une réflexion sur savoir comment on peut diminuer les pesticides assez rapidement. Mais, enfin, c'est pas juste nous qui l'inventons. Le gouvernement québécois souhaite diminuer l'utilisation des pesticides et n'y arrive pas.
Est-ce que vous diriez que le gouvernement fait assez de consultations? Parce que là, vous reprochez au gouvernement d'écouter trop les compagnies. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, fait assez de consultations? Êtes-vous consulté? Vous sentez-vous consulté, en fait, dans ces démarches?
Oui, là, on a été faussement consulté parce qu'en fait, les Tiger Team nous apprend que tout a été écrit d'avance uniquement avec l'accompagnement de CropLife et après ces documents là qui nous demandent de consulter sont c'est déjà biaisé quoi, on n'est pas au même pied d'égalité que les compagnies. Et le problème c'est ça aussi, c'est qu'il y en a qui sont surreprésentés dans leur orientation quoi.
Mais quand vous dites on a été faussement consulté, quand ils consultent mettons les agro, maintenant j'essaie d'avoir des bonnes intentions pour tout le monde, mais mettons que le gouvernement rencontre des agronomes du privé, des compagnies, ils disent bon qu'est-ce que vous feriez, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les cultures mais en même temps pas trop détruire non plus la gestion des sols, ce qui est important. Ils vont chercher l'information, ils font des rapports, ils font des projets de loi, etc. Et après, ils se tournent vers vous. Est-ce qu'ils vous écoutent quand ils se tournent vers vous ou vous êtes complètement biffé?
Nous, Vigilance OGM, ainsi que l'UPA, ainsi que les transformateurs du Québec, n'ont aucunement été écoutés lors de ces consultations sur les nouveaux OGM. Et tu sais, ce qu'on demandait, c'est pas une interdiction des OGM, on demandait une traçabilité, une transparence et une évaluation obligatoire. Je veux dire, c'est pas forcément révolutionnaire. On peut pas mettre un produit sur le marché sans savoir. Il a aucune historique il a jamais été testé, il a aucune historique de salubrité de la part de Santé Canada. Santé Canada voulait juste on va juste l'évaluer et on va vous dire quand il sera sur le marché. On vient pas l'interdire, on vient juste l'évaluer. C'est-à-dire, c'est pas une interdiction qu'on demandait, c'était juste une évaluation classique qui existe déjà, là. C'est pas non plus radical, la demande.
Et au jour d'aujourd'hui, avec les représentations que vous avez dû faire de votre côté aussi, parce que de votre côté, vous faites aussi des représentations du lobbying, en fait, auprès des différents gouvernements. Est-ce que ça porte fruit? Est-ce que vous avez accès, vous n'avez pas revu les cabinets, vous n'avez pas revu les ministres, vous n'avez pas revu personne?
Moi, j'ai rencontré avec Capé et Agrobio le 26 mai, donc juste après la décision de l'Agence d'inspection des aliments de déréglementer de nouveaux OGM. On a rencontré Madame Bibeau à son bureau, mais depuis, j'ai plus de rencontres. D'ailleurs, Madame Bibeau n'est plus ministre de l'Agriculture, mais j'ai plus de rencontres avec des bureaux. Vous savez, j'ai demandé qui sont les nouveaux attachés politiques parce que maintenant, c'est deux ministres qui sont à l'extérieur du Québec. Et ça fait à peu près 3 mois que je demande juste des courriels et je n'ai reçu aucune réponse. Ce qui est un peu ironique aussi, c'est quand on regarde les courriels de la Tiger Team, là, on s'aperçoit que des fois, il y a quelqu'un de CropLife qui écrit à l'agence d'inspection et le monsieur de l'agence d'inspection qui est quand même des hauts placés là, il s'excuse de répondre pas dans la même journée mais un peu tard quoi. Donc nous souvent on a du mal à avoir des réponses au bout de plusieurs mois et plusieurs rappels et on voit que ces gens-là ils travaillent en équipe quoi.
Alors pour terminer, je dirais votre première demande actuellement, votre première attente serait quoi à court terme?
Dans le dossier des nouveaux OGM, on veut qu'ils reviennent en arrière, on veut qu'ils écoutent la voix des agriculteurs bio, des associations d'agriculteurs. Il n'y a pas juste le bio, là, il y a la NFU qui le demande, il y a l'UPA qui le demande, et donc on veut qu'on, sachant que à la suite de ces révélations, on s'est aperçu que ces consultations ont été créées uniquement avec l'industrie des OGM et des pesticides, on veut qu'ils reviennent en arrière et qu'ils garantissent au moins une évaluation et une transparence obligatoire sur l'ensemble des OGM, comme c'est le cas actuellement. Comme c'était le cas il n'y a pas si longtemps.
Merci Thibault Rennes d'avoir participé à cette émission et à très bientôt.
Merci à vous, bonne journée.
Merci, on va faire une pause, on revient dans un instant. C'est fort intéressant, Yannick, on pourra commenter au retour.
Écoutez la saison 2 de La vie agricole à Ma TV. Cette année, on focus sur les fromages du Québec. Écoutez cet automne et cet hiver Ma TV pour découvrir l'histoire et les fromages de la fromagerie Boivin. Fromagerie L'Ancêtre, Fromagerie La Station, Fromagerie Les Basques, Laiterie Charlevoix et Yannick Fromagerie. Et grâce à l'apport de plusieurs experts, dont ceux de l'Institut Jean Garon, découvrez les enjeux qui attendent les fromagers du Québec dans l'avenir.
Avec le M7 de Kubota, soyez bien équipés pour mieux travailler. Exécutez tous vos travaux d'entretien avec performance, confort et polyvalence. Profitez d'incroyables offres sur les modèles M7 en plus de la meilleure garantie de l'industrie. Visitez votre concessionnaire Kubota pour plus de détails.
Venez participer aux Journées agricoles Limoilou cet automne. Limoilou se veut ainsi un pont entre la ville et nos campagnes. Venez rencontrer ceux qui produisent ce que vous retrouvez dans vos assiettes au quotidien. Sur place aussi, plusieurs kiosques éducatifs et des jeux pour enfants. Le samedi 14 octobre, les rencontres se feront sur le thème « Boissons et vendanges ». Et le samedi 4 novembre, sous le thème « Fondue et fromage ». Une invitation de la SDC Limoilou et de la vie agricole. Avec le partenariat de Nature Bélisle, le spécialiste de la nutrition des poules en ville.
Nous voilà de retour à La Quotidienne. Je vous rappelle qu'on est avec Yannick Patelli, éditeur de La Vie agricole, également Michel Saint-Pierre de l'Institut Jean Garon.
Bonjour.
Bonjour. Alors, Michel et Izzy, on a fait une entrevue avec Thibault Rennes.
Oui.
Très intéressant.
Le directeur de Vision CHOGM. Et finalement, très intéressant. Point de vue à entendre, effectivement, oui, sur oui. Sa perception des choses vis-à-vis de Tiger Team et vis-à-vis des relations, on va dire, avec le privé et le gouvernement. Bon, on essayait de lui mettre en avant aussi que de notre côté, quand on parle avec les gens de chez CropLife, entre autres Pierre Pétel ou autres, on se fait dire, écoutez, les privés sont chez nous, donc c'est un peu normal que le gouvernement nous consulte. De cette entrevue et de ce point de vue, Michel Saint-Pierre, vous diriez quoi, vous?
Ben d'abord, l'entrevue a porté beaucoup sur le, comment on dit, l'importance des lobbies des entreprises de CropLife, des lobbies de Bayer, Monsanto. Ça a été, historiquement, c'est vrai. Mais il y a beaucoup d'autres aspects du côté OGM, je pense, qui nous touchent là, depuis très, très longtemps. Effectivement, il touche un point. On est, dans le fond, on a créé un modèle de production qui est utilisateur, par définition, de pesticides. Parce que les OGM ont été développés dans le sens de résister à un pesticide très précis, à un herbicide. C'était le début, ça. Si on remonte un peu, j'aimerais faire peut-être ouvrir une parenthèse. Les OGM, au départ, c'est une idée qui aurait pu être très géniale. Modifier quelque chose pour y trouver, par exemple, un avantage. Je donne un exemple. Résistance à la sécheresse.
Oui,
des plantes. Et c'était ça un peu qui était dans les débuts du concept de modifier la génétique d'une plante. C'était pour aller essayer de trouver des caractères qui étaient...
Qui rendaient plus résistantes.
Oui, qu'on pouvait trouver chez certaines et transmettre à d'autres. Notamment pour améliorer les rendements dans les pays qui connaissent, par exemple, des chaleurs extrêmes. Ça, là, c'est comme ça avait été oublié. Il y a une que les vieux comme moi qui se souvient de ça, là.
Mais non, c'était ça. Pas vieux, franchement. T'es ancien. Ah, non, non.
Le savoir des anciens.
Mais ça a été un peu oublié parce qu'on a créé un modèle tellement payant.
Oui.
On a créé une obligation d'acheter un produit et une semence précise d'une entreprise. Alors, c'était ça, le départ. Oui. Bon. Et ça l'a amené à une sorte de pratique qui est un peu comme si une recette, un peu une recette de gâteau où tu mets une semence en terre, tu ajoutes un pesticide et des fertilisants. Bien, le résultat, c'est qu'on est effectivement, puis ça, il avait raison, Thibault, on est grand utilisateur de pesticides.
Ben, on est grand utilisateur de pesticides.
Oui.
Mais quand, en tout cas, moi, je à moins que Google ne se trompe, mais ça fait quelques fois que je fais la recherche et que je la refais et que je la refais, je retombe toujours sur les mêmes résultats de l'OGM.gouv.qc.ca. On nous rappelle quand même que l'utilisation d'OGM aurait réduit l'épandage de pesticides de 352 millions de kilos, donc moins 8,4% entre 1996 et 2008. Et on aurait donc ainsi diminué l'impact environnemental de 16,3%.
Ça, ce serait par rapport à une pratique traditionnelle qui aurait été continuée.
Ben, en fait, bien après, même on dit ça fait moins d'épandage, donc moins d'essence utilisée. En fait, ce que je veux dire, c'est que quand on a parlé avec Thibault Rennes tout à l'heure, il y a comme les deux discours. Ou bien les discours sont polarisés. D'un bord, on a ceux qui disent on est complètement contre les OGM, on est contre les pesticides, on est contre tout. Puis de l'autre côté, effectivement, il y aurait les gros méchants qui vendraient les pesticides juste pour remplir les poches des actionnaires. C'est un peu le point de départ de la discussion souvent qu'il y a sur les pesticides. Mais est-ce que c'est ça la réalité du monde agricole aujourd'hui, ou c'est plus consensuel? Parce que je me souviens que quand l'Institut, en 2017, lors de la commission sur les pesticides, quand l'Institut a déposé son rapport et a écrit que le pesticide était un médicament, est-ce qu'au final, dans le débat public, on aborde ça comme ça en disant bah, finalement le pesticide, on en a besoin, il ne faut pas trop en mettre, mais on a besoin. Est-ce qu'on l'aborde comme ça, ou on est encore revenu en fait, au discours de on est pour, on est contre?
Oui, on est un peu polarisé de ce côté-là. Dans le débat, il y a un peu cette polarisation-là. Et le côté, alternatif à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre que ça? Les plus vieilles pratiques en agriculture étaient probablement les plus sages. Des rotations de culture, ça permet d'abord d'éloigner, si on veut, l'usage, le besoin d'un pesticide.
Oui, c'est vrai. Ça diminue.
Ça permet d'éviter l'installation en permanence de parasites, de tout ce qui peut être néfaste. Et en plus de ça, d'enfouir dans le sol de la matière organique, parce que quand tu fais une rotation, généralement, tu introduis aussi des plantes, des légumineuses, qui vont fixer de l'azote dans le sol. Plein d'avantages. Et là, évidemment, on n'a pas complètement oublié, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le préconisent, mais dans la pratique, c'est pas encore véritablement revenu comme étant une sorte de pratique sage, la plus sage qu'il peut avoir. Puis d'autant plus que nous, on parle souvent de diversification de notre production. Ce serait une sacrée bonne façon d'introduire des plantes en rotation.
Oui, puis je pense que c'est pas les champs qui manquent pour faire des rotations, si on veut, là.
Non, tout à fait. Puis pour moi, là, les chiffres de dire « Ah, ça serait ça s'il n'y avait pas d'OGM », non, moi, je n'embarque pas bien dans cette chose-là, parce que on peut faire une sorte d'extrapolation là, très, très facile, et puis dire si ça n'avait pas été là, la fin du monde serait arrivée. T'sais, non, c'est pas ça, l'histoire. Il faut dire une chose, peut-être juste pour l'histoire. Au départ, Vigilance OGM travaillait beaucoup sur le côté de santé. Genre, les OGM, c'est des poisons. Je pense qu'ils ont... Ils ont mis ça de côté, ce discours-là.
Mais d'ailleurs, dans l'entrevue, je pense que ce qu'on a entendu, il dit, quand il est revenu sur les OGM, il dit, nous, on ne demande pas la fin des OGM.
Non, c'est ça, exactement.
Et en fait, ça, c'est un peu nouveau.
C'est quand même, oui.
Quand on va sur le site de Vigilance OGM, c'est pas vraiment ça qu'on écrit. Non?
C'est ça. C'est pour ça que je dis qu'au début, là, c'était comme, tu mettais un signe de poison là-dessus. Mais d'abord, d'une part, l'Organisation mondiale de la santé n'a jamais trouvé qu'il y avait un effet négatif sur la santé. Ils n'ont jamais trouvé. Alors, je ne dis pas que ça n'existait pas, mais c'est dans les, tout ce qu'ils ont publié, tout ce qu'ils ont fait comme travail, n'ont jamais pu démontrer. Mais je reviens aux usages qui auraient possiblement été les plus sages, les mieux pour l'avenir de la planète. C'est là que je pense qu'on a dérapé. C'est là qu'on a oublié que ces technologies-là, cette science-là pouvait avoir des effets extrêmement positifs.
Mais si on en revient aussi à Tiger... Comment ils appellent ça?
Tiger Woods?
Team Tiger.
L'équipe Tiger.
Si on en revient à Team Tiger, donc l'enquête, qu'a révélée Thomas Gerbet, quand on dit, les compagnies sont ou trop consultées ou trop écoutées par les gouvernements, juste sur le point que je discutais tout à l'heure avec Thibault Rennes, le fait que les agronomes sont dans le privé. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle finalement ils s'assoient? Si les agronomes sont plus au MAPAC, ils vont toujours bien qu'ils s'assoient quelque part avec des agronomes. Si les agronomes sont à 80% au privé, c'est un peu normal que les compagnies privées soient consultées.
Oui. C'est normal. Puis de l'autre côté, ils sont équipés également en matière de lobbying. Donc, ils ont des personnes qui ne font que ça. Et puis, bon, ils savent trouver aussi les arguments. Puis c'est pas toujours fallacieux. C'est pas toujours des arguments faux. Là.
C'est là où je voulais en dire. Est-ce qu'il faut partir du principe, en tant que, je sais pas, consommateur, si on se met dans la position d'un consommateur, est-ce qu'on doit partir du principe que si ça vient de CropLife, ça vient de Bayer, ça vient de Monsanto, ça vient parce que ce sont des noms qui ont circulé, pas toujours positivement, médiatiquement, est-ce qu'obligatoirement c'est négatif? Ou est-ce qu'ils peuvent avoir des bonnes intentions?
Ça ne peut pas être toujours négatif, parce que d'abord, ils possèdent quand même une science que tout le monde n'a pas. Là. Je veux dire, là, tu peux toujours inviter des consommateurs là, qui ont écouté toutes sortes de choses, les OGM, qui vont venir dire c'est poison. Mais les gens possèdent quand même une science.
Si j'amène ça dans un autre contexte, je ne sais pas, mettons un gouvernement veut développer des projets de fusées ou d'avions ou d'aéroports. J'imagine qu'ils vont s'asseoir avec des gens qui connaissent les fusées, les avions, les aéroports, l'aéronautique.
C'est ça,
donc
c'est
ils vont certainement s'asseoir avec des gens du privé.
Oui.
Ben oui, c'est vrai, probablement. Oui, tout à fait.
Ce sont certainement ces grandes entreprises-là, celles qui ont le plus investi dans la recherche et le développement dans dans ces domaines-là. Donc, tu peux pas les ignorer, là.
Non, tu peux pas.
Il y a du côté gouvernemental aussi des recherches qui se font, et celles-là aussi doivent être autour de la table. S'il y a quelqu'un qui doit se parler, c'est bien ces deux-là. Puis d'autres, peut-être, peuvent venir. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être ouvert à différentes représentations, mais si tu veux parler d'un côté très scientifique et très technique, bien, amène des gens qui sont formés, qui ont cette connaissance-là.
C'est l'essence, c'est l'essence de ça, c'est d'avoir des personnes qui connaissent bien
oui,
le sujet.
C'est ça. Dans tous les
domaines, finalement.
Et c'est pas toujours facile, lorsqu'on parle d'un point de vue gouvernemental, d'avoir ces ressources-là à l'interne. En même temps, je comprends la perception qu'il peut y avoir dans l'industrie de dire, ben écoute, on prend une ressource chez quelqu'un qui a peut-être des intérêts dans l'autre sens.
Il existe des gens au niveau gouvernemental puis au niveau des universités, parce que les gouvernements travaillent beaucoup avec les centres de recherche universitaires. Donc, il y a des gens, mais ces gens-là, je pense qu'ils sont invités autour de la table. Oui. Ils le sont, eux, ces gens-là. C'est peut-être qu'on trouve pas que, je sais pas moi, le point de vue d'une organisation, on parle dans leur cas de village OGM, mais il n'y a peut-être pas non plus de représentation des groupes citoyens qui sont là-dedans, c'est ça le point.
Et qu'est-ce qui a créé la démobilisation des experts dans les gouvernements, en fait? En tout cas, pour ce qui est du MAPAC, puisque tu y étais, tu l'as vu?
C'est-à-dire que tranquillement, ça s'est fait par coupure budgétaire, simplement, là, le terme est bien clair, c'est qu'à chaque fois que le gouvernement cherchait à avoir son déficit zéro, parce qu'on était parti à une époque d'un gouvernement qui faisait systématiquement des déficits. Et là, tout à coup, les ministères ont tous été mis à contribution. Ça paraît dans la santé, ça paraît dans l'éducation. Donc, c'est un peu le reflet de cette longue histoire de réduction. Les routes également, on a oublié des entretenir quand on a un bout de temps. Alors, c'était vrai en agriculture.
Ah
oui? Oui, c'était
vrai. Ah, j'ai jamais remarqué que les routes étaient...
Et les viaducs aussi.
Ah oui, aussi? Voyons, surprise.
Et c'était vrai en agriculture.
Je pense que Michel est là pour nous rappeler ces choses-là.
C'est notre mémoire à tous les jours.
Ben oui, mais c'est ça.
Puis, quand le ministère de l'Agriculture a eu des commandes, entre guillemets, de coupures budgétaires, ben, il est allé plutôt vers la périphérie. Il est allé plus vers le service.
Oui.
Bon, une grosse partie de son personnel était à l'extérieur. Et il était possible de former des groupes conseils privés ou semi-privés qu'on subventionnait. C'était moins cher que d'avoir des employés.
La semaine prochaine, on parlera de la syndicalisation gouvernementale, non? Alors voilà, malheureusement, souvent, on vient d'en faire ce constat-là, c'est qu'on a souvent un manque de ressources à l'interne des gouvernements, et c'est souvent le modèle qui, parfois, est à revoir dans plusieurs facettes pour plusieurs choses. Ben merci, messieurs.
Merci.
Et évidemment, je pense qu'on va en reparler des OGM et tout ça, c'est de l'environnement, c'est sûr.
On a changé
de
sujet, tout d'un coup, je ne sais plus
pourquoi. 30 minutes, c'est pas assez long. C'est pas assez long.
Et voilà, ça complète la quotidienne pour cette semaine. Merci. À la prochaine.
Merci.
Bonne journée. Bye.